entrer de Boussaï au Cachin oriental. J'ai réduit totalement cette
étude. Moi, c'est l'île de Lubumbashi au Kashanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole aux auditeurs qui vous permet d'échanger en direct sur Radio Capi avec les autres auditeurs sur le thème du jour. Aujourd'hui, justement, nous parlons de l'évacuation des produits alimentaires qui se trouvent dans les coins les plus reculés et enclavés du pays. Dans plusieurs provinces du pays, vous le savez peut-être, les produits alimentaires pourrissent faute d'évacuation. C'est le cas du Kasaï oriental, du Bandundu, du Katanga, dans la province orientale et dans beaucoup d'autres provinces du pays. Et dans certaines provinces de la RDC, les cossettes de manioc sont même utilisées comme de la braise. Avec la fin de la saison de pluie à l'est et au centre du pays, les routes deviennent en principe plus praticables que pendant la saison de pluie. Alors, quelle stratégie adopter pour évacuer les produits alimentaires se trouvant dans les coins les plus reculés et les plus enclavés du pays, pour ainsi casser leur prix dans les grands centres de consommation? Parole aux auditeurs vous donne l'occasion de vous exprimer sur cette question. Nous avons comme invité un confrère journaliste qui travaille au Potentiel, un quotidien parisien ici à Kinshasa. Il s'appelle Jean-Jacques Mampaka. Il a effectué avec un confrère belge un voyage de plus de 1500 km à travers les provinces du Kasaï et celle du Bandundu. Et c'est dans une petite embarcation. Il a vu au cours de ce voyage une quantité importante de produits alimentaires qui pourrissent faute d'évacuation. Et il va témoigner dans cette émission une fois de plus. Bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Voilà, Jean-Jacques Mampaka, bonjour.
Bonjour Claude.
Vous avez sillonné quelques provinces du pays. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu, notamment ce qui concerne la production qui traîne à l'intérieur du pays, qui n'était pas très évacuée?
Oui, il faut dire une chose, c'est que la République démocratique du Congo, c'est un très grand pays, et il y a certains coins où la production agricole, elle est encore effective, et ces agriculteurs éprouvent énormément de difficultés pour évacuer leurs produits. Et nous savons, comme vous venez de le dire à l'annonce de votre émission, que c'est probablement pendant la saison sèche que les routes peuvent devenir praticables, si on en trouve. Mais sinon, les produits agricoles vraiment sont en train de pourrir, alors en grande quantité.
Et vous les avez vus où? Précisément dans quelle province, dans quelle partie du pays? Parce que les auditeurs nous suivent, peut-être. Il y en a certains qui vous ont vu dans ce territoire.
Oui, il faut dire que, comme nous avons démarré par l'Odja, et il faut, pour ceux qui connaissent très bien le Kasaï oriental, et c'est l'une des cités que traverse plutôt la rivière Loukenié, et quand vous sillonnez cette rivière, avant d'atteindre Kolé, pratiquement, il y a des ports de fortune qui existent, qui sont créés par des villageois qui ont préféré quitter les agglomérations situées à plus de 5 à 7 kilomètres à l'intérieur, et ils se sont plus rabattus sur la rivière pour pouvoir évacuer les produits agricoles. Nous avons le cas de Itanda Sud, nous avons le cas de Bosangé. Donc, il y a pratiquement tous les villages que nous avons traversés le long de la rivière Loukenié qui souffrent de ces difficultés-là, l'évacuation des produits alimentaires.
Mais ils arrivent quand même à les évacuer, peut-être à travers des petites embarcations qui passent le long de ces rivières. Vous, je rappelle, vous étiez dans une toute petite embarcation, pratiquement c'était une pirogue.
Bah oui, non, c'est une pirogue. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le kayak. C'est d'origine indienne, de l'Amérique du Nord. Donc c'est une pirogue qui est faite en matière plastique. Et elle est quasi submersible. Donc on n'a pas tellement de difficultés quand on paguait là-dedans.
Mais 1500 km quand même dans une petite pirogue, c'était pas facile. Hein.
Non, c'était pas facile. Ça, il faut le reconnaître, puisqu'il ne faut pas simplifier les choses. Le kayak, c'est d'abord un mode de transport que l'Africain n'utilise pratiquement pas, puisqu'on a une autre disposition là-dedans. Il faut s'asseoir, avoir les jambes bien sur la coque pour équilibrer, parce que là, vous pagayez de deux côtés, c'est pas un seul côté, donc vous avez le mouvement à gauche et à droite, et qu'il faudrait maintenant équilibrer, parce que faute d'une fausse manœuvre, vous vous renversez. Donc, il faut dire que c'était pas du tout facile.
Et j'aimerais que vous étiez avec un confrère belge qui s'appelle...
Oui, c'est Marc Hoekstens, c'est un flamand.
Donc, je rappelle que vous avez fait de votre voyage un documentaire. Hein.
Oui, il y a des images qui pourront sortir d'ici le 20 de ce mois. Comme ça, le téléspectateur pourra le vivre, comme les auditeurs sont en train de vivre maintenant ce périple au niveau des ondes.
Exactement. Merci beaucoup. On vous a justement invité à cause de ça pour témoigner de ce que des difficultés que prouvent les populations congolaises qui ne sont pas du reste paresseuses, hein, qui produisent, mais n'arrivent pas à évacuer leurs produits. Voilà, nous avons déjà une auditrice en ligne. Donc nous allons nous rendre à Manono, au Katanga. Bonjour, c'est un sœur Marceline. Vous êtes une religieuse?
Oui, c'est une religieuse.
Merci beaucoup, soyez la bienvenue dans cette émission. On vous écoute. Quelle est votre réaction par rapport à ce thème? Quelle stratégie à mettre en place pour justement évacuer ces produits qui traînent, comme l'a témoigné notre confrère?
Ok, merci beaucoup pour la question. Moi, je vois que c'est mieux d'arranger d'abord les routes pour permettre des transports qui peuvent acheminer les vivres cultivés au village vers les grands centres. C'est ça ma proposition.
Mais chez vous, là-bas, à Manono, qu'est-ce que la population produit?
Bon, la population produit ici, nous avons beaucoup de manioc, maïs, le riz.
Oui, mais il n'arrive pas la population n'arrive pas à évacuer ces produits.
Bon, c'est un peu avec beaucoup de difficultés. Sinon, ils le font avec des vélos ou bien avec des bâtons. Il y a des pirogues ou bien des bateaux qui amènent des vivres dans différents endroits. La route est un peu aussi praticable, mais pas tellement. Hein. Pendant la saison des pluies, c'est vraiment difficile.
Ah, voilà. Madame, sœur Marceline, on vous garde encore dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Il y a aussi Didier de Guadeloupe dans l'Équateur qui est déjà en ligne. Didier, bonjour d'abord. Et quelle est votre réaction par rapport à cette situation?
Oui, bonjour Claude, c'est bien Didier depuis la ville de Bado.
On vous a déjà entendu.
Ouais.
Allez-y.
Oui, Claude, mais ici, je vais vous dire qu'ici, dans la ville de Bado, en particulier, voir la province de l'Équateur, nous sommes déjà au début de la saison pluvieuse.
De la saison sèche?
Non, pluvieuse.
Ah bon, oui, allez-y.
Ouais, parce que vous disiez que c'est déjà le début de la saison sèche, mais ici, c'est la saison pluvieuse. Alors, Claude, j'ai une courte préoccupation.
Oui.
Pour évacuer des produits agricoles que nous en avons ici à Bado, voire Bossobolo, Kotakoli, il faut d'abord assainir les différents moyens de transport que nous en avons.
C'est-à-dire, oui.
L'évacuation se fait par des voies ferroviaires, fluviales, aériennes et routières. Mais, Claude, tous les moyens de transport que je viens de citer n'existent presque pas ici. Les routes sont vraiment délabrées, la rivière Oubangui n'est pas balisée, la voie aérienne coupée il y a à peu près 2 ans de la ville de Bado. Alors, par quel moyen nos produits pourraient être évacués, Claude?
Mais alors, qu'est-ce que vous produisez là-bas à Guadeloupe?
Oh, beaucoup, Claude. Nous produisons du maïs, les courges, les haricots, l'huile de palme, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup.
Mais on revient à sœur Marceline de Manono au Katanga, ma sœur, mais finalement, est-ce qu'il faut... la population ne peut pas évacuer. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette population-là, pour trouver une solution? Est-ce qu'elle attend une action de l'État ou bien elle peut aussi faire quelque chose?
Oui, c'est la sœur Marceline.
Oui, allez-y. Vous avez suivi ma question?
Bon, moi, je vous ai dit que la population cultive beaucoup plus de riz, de maïs, de manioc, les haricots, nous avons aussi les noix de palme. Je vois un peu beaucoup, mais la population se donne quand même la peine d'évacuer ça par moyen de vélo. Il y a même des véhicules qui arrivent, sauf que pendant la saison de pluie, les véhicules peuvent faire des jours, encore des routes, compte tenu de la route. Mais il y a aussi des bateaux qui aident la population à transporter les vitres aussi vers les grands centres.
Mais est-ce que la population arrive à évacuer toute sa production ou bien ce n'est qu'une infime partie de cette production?
Oui, il évacue, mais au fur et à mesure, pas comme quelqu'un peut planifier d'évacuer d'un seul coup comme ça. Il faut trouver le moyen de transport sûr.
Mais vous, au niveau des religieux, est-ce que vous ne pouvez pas les encadrer pour dégager ces routes? Parce qu'il ne faut peut-être pas tout attendre de l'État, vu les problèmes que connaît la RDC actuellement.
Oui, on est en train d'arranger des routes, mais on n'a pas encore fini. Il y a beaucoup de routes, au moins.
Merci beaucoup.
On n'a pas encore fini de tout.
Merci beaucoup, okay. Madame ma sœur Marceline, d'être intervenue de Manono au Katanga. Et bonne journée chez vous. On revient à Didier des Guadolité. Alors, au niveau de la population, qu'est-ce que vous faites pour évacuer tout? Est-ce que vous arrangez quand même des routes? Vous essayez d'arranger des routes?
Claude,
oui.
une population fatiguée, une population qui n'a pas de l'argent, comment tu vas mélanger les routes? Avec les cartonnages manuels, comme on avait abordé ce sujet les jours passés, On pourra procéder au cartonnage manuel, mais on n'a pas de moyens. Avec le peu de véhicules que nous en avons ici dans la ville de Bado, la population essaie quand même d'évacuer ses produits pour amener vers Moussina à 140 km de Bado.
Qu'est-ce qu'il vous faut comme moyen?
Pardon?
Qu'est-ce qu'il vous faut comme moyen?
Ah, avec des produits agricoles que nous produisons sur place ici, on arrive quand même à vendre une partie pour essayer de transporter autre partie pour vous amener à Kinshasa.
Au fait, je voulais savoir si vous avez besoin de quoi rapidement, 30 secondes, pour évacuer ces produits.
Pour évacuer, ouais. Comme j'avais dit, même par avion, on pourra le faire, même par bateau, par véhicule, on pourra le faire, mais on n'a pas toujours les moyens, Claude.
Merci beaucoup d'être intervenu depuis la ville de Guadolité dans l'Équateur et bonne journée à tous ceux qui nous suivent dans cette partie du pays. Au revoir Didier. Stéphane, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Qu'est-ce qu'il faut pour évacuer justement ces produits? Est-ce qu'il faut utiliser la voie aérienne ou comme le pense Didier de Guadolité ou il y a beaucoup d'autres moyens qui sont plus à recommander?
Oui, Claude, bonjour.
Bonjour.
Je dis ça, mais le moyen pour évacuer les histoires, les produits alimentaires, ce n'est pas difficile. Mais le problème qui est là, la population est extrêmement pauvre. On est pauvre, on a des initiatives, mais on ne peut pas parvenir à résoudre ces initiatives ou à concrétiser ces initiatives. Pourquoi? Comprenez, une personne qui cultive, le lendemain, il a le problème de l'évacuation. C'est quoi? C'est vraiment très difficile et ça fait mal. Il cultive, il est d'abord découragé pour ne pas trouver un marché qui doit écouler cette histoire. Les histoires sont en train de pourrir. On a vu l'autre fois à la télé Nyota, les choses qui sont pourries ici en brousse.
Mais quoi, par exemple, qu'est-ce qui est pourri en brousse?
Du côté Manon, sur les chemins ferroviaires là-bas.
Qu'est-ce qui est pourri? Quels sont les produits qui pourrissent?
Il y a l'haricot, il y a les arachides, le maïs, mon frère. Loin de là. Même au Kassai. Il y a des parties où on travaille, mais les routes ne sont plus. N'existe pas.
Et quand ces produits pourrissent, est-ce que cela décourage les agriculteurs à produire encore plus?
Ça décourage. On doit faire la culture hier pour la famille et c'est fini. On va vendre, on va écouler où? On doit faire ça. Et dans les collèges, on fait ça en famille et on consomme seulement. On consomme en famille parce que si on va toujours cultiver pour faire pourrir, ce n'est pas logique.
Merci beaucoup, on regarde encore un tout petit peu Stéphane de Lubumbashi. Richard, vous êtes à Kinshasa, votre réaction, est-ce que la solution finalement, puisque les agriculteurs n'arrivent pas à évacuer leurs produits, serait, comme l'a dit Stéphane de Lubumbashi, produire rien que pour la consommation, alors que dans les grands centres du pays de consommation, on a besoin de ces vivres?
Oui, il a raison, j'appuie tout le monde qui a parlé, mais j'ajoute une autre chose.
Oui.
Vous savez qu'il se pose un grand problème de transformation et de conservation.
Oui.
Cette technique-là n'est pas vulgarisée à travers le pays. On est encore dans des techniques archaïques, des séchages des manioc, etc., avant qu'on puisse le moudre. Par exemple, le fumage des poissons, etc. Ça, c'est dépassé. Je suis médecin, mais je fais aussi l'entrepreneuriat agricole de la filière transformation et conservation des produits agroalimentaires.
Mmh.
Je suis de la filière bio. Ok?
Oui.
Quand je regarde ce qui se passe, nous sommes encore en retard. Même là où nous cogitons dans des ateliers entre médecins, je salue le Pronani qui est en train de donner la vitamine A aux enfants, même là-bas, la transformation et conservation des produits agroalimentaires n'est pas là. Donc nous sommes encore en retard, un grand retard, et quand je parle de produits de conservation, transformation et conservation, ça voudrait dire quoi? On peut, à partir de la transformation, faire des greniers sur le plan régional, sur le plan communal, etc. Et voir maintenant, là où il y a le besoin de consommation de XY denrées, et converger les produits vers ce point-là. Mais chez nous, ici, c'est le brut, c'est le produit naturel, c'est le frais. Ça pourrait entre deux points, c'est-à-dire la production, le point de production et le point de coulement, ça pourrait parce que les routes ne sont pas là. On est encore en retard.
Merci, docteur. On vous garde encore dans cette émission. On vous récupère dans une poignée de secondes.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Et si vous venez de prendre encore cette émission, voici le thème, cette émission Parole aux auditeurs. Avec la fin de la saison de pluie à l'est, à l'ouest et au centre du pays, les routes deviennent en principe plus praticables que pendant la saison de pluie. Alors, quelle stratégie adopter pour évacuer les produits alimentaires se trouvant dans les coins les plus reculés, les plus enclavés du pays, pour casser leur prix dans les grands centres de consommation? Parole aux auditeurs vous donne l'occasion de vous exprimer sur cette question en direct sur Radio Capi. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Et si vous voulez nous envoyer un SMS, appelez-nous au 09-98-999-222. Stéphane, on va conclure avec vous. Finalement, le docteur Richard pense que comme il n'y a pas de route d'évacuation de ces produits, il faut plutôt chercher à les conserver. Est-ce la solution d'après vous?
Ce n'est pas la solution. La conservation n'est pas la solution. Tout d'abord, les villageois quittent l'air et venir prendre les informations en ville. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de route pour venir même en ville. Chacun doit se trouver à l'aise là où il est.
Mmh.
Il a besoin d'une information, il doit trouver l'information là où il est. Mais, vous voyez, il y a des choses qui se font, des séminaires à Kinshasa. Vous comprenez au moins? Les agriculteurs qui se regroupent là à Kinshasa, ils font leurs séminaires là à Kinshasa. Est-ce que c'est certain que ceux qui sont au village entendent cela? C'est normal, mon frère. Ils ont des pertes bien, mais ils font tout ce qu'ils veulent, mais là, pas toujours. C'est toujours dans les centres-villes où on trouve les gens.
Merci
vous
beaucoup.
Voyez maintenant, avec le système de 5 chantiers ici, on est toujours en ville, hein. On est en train de finalité dans les villes. Mais on ne sait pas relier les points avec les villes. C'est ça le problème.
Mais...
C'est ça avec les 5 chantiers, c'est ça.
Il faut relier les filles et les villages pour que nous, on est toujours en train de s'intéresser de ceux qui viennent de la Tanzanie, de l'Inde, de partout. Mais nous-mêmes, nous décourageons nos propres frères. Ce n'est pas bien.
Voilà, merci beaucoup Stéphane de nous avoir rejoint depuis Lubumbashi au Katanga. On va laisser le docteur Richard vous répondre. Docteur Richard, votre réaction?
Oui, mais c'est ceci. Vous savez que lorsqu'il est arrivé à pied, à Kinshasa, le président n'a pas pris des avions, etc. C'est qu'il y a encore des routes. Mais nous cherchons les meilleures routes qui demandent beaucoup de moyens. Mmh. Mais comme ces routes ne sont pas encore là, quel produit doit-on amener du point A au point B? Est-ce que des produits avariés ou des produits de bonne qualité? C'est ça encore le problème.
Mais l'information, comme vient de le dire notre précédent auditeur, va circuler comment dès lors qu'il n'y a pas de route pour aller justement former ces ouvriers, ces agriculteurs à utiliser ces techniques de conservation?
Oui, là, c'est le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé publique, par la branche qu'on appelle le CRONANUT, qui doivent faire maintenant des plans stratégiques de formation. C'était prévu. Vous savez que le programme qui m'avait formé à l'ITM Mbélé est fermé. Pourquoi? Parce que la partie congolaise pour soutenir le PRIMTAP, donc c'était ce programme canadien-là, est fermée parce que la partie congolaise n'a pas donné les moyens. Pour la suite, parce qu'on devait décentraliser cette formation, amener ça au niveau des provinces et des districts. Mais la partie congolaise n'a pas bougé.
Merci beaucoup, docteur. Merci de nous avoir d'avoir enrichi ce thème. Et portez-vous bien. Daniel est à Luputa, au Kasaï oriental. Bonjour, Daniel. Daniel, je vais vous donner quelques exemples. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de différences de prix? Par exemple, un kilo de viande à Bunia coûte à peu près 2700 francs congolais, tandis qu'à Kinshasa, c'est pratiquement 8000 francs, c'est 10 dollars. Un kilo de pommes de terre coûte à l'est, dans cette partie, dans certaines parties de l'est du pays, notamment à Bunia ou dans la partie orientale donc du pays, 400 francs congolais, tandis qu'ici à Kinshasa, c'est un ordre de 2400, c'est 6 fois le prix. Et comment faire justement pour casser ces prix?
Ok, je pense que je parle en partie de l'Ukuta. Je voulais dire qu'il y a deux paramètres là-dessus que je peux étonner. Le premier est celui de la police économique, qui n'est plus fait en service de l'économie, là où la population est en train de fixer les prix à sa volonté. Alors, l'État ne contrôle pas la fixation des prix, cela est à la base aussi de cette différence remarquable des prix. Et puis autre chose, c'est particulièrement, c'est l'affaire des routes, les infrastructures routières ne sont pas en bon état. Et pour arriver d'un lieu à un autre du pays, vous voyez, il faut beaucoup de difficultés. En tout cas, c'est cette manière que je raisonne sur ce sens-là.
Mais Daniel, vous êtes à Luputa, au Kasaï oriental. Est-ce que vous pouvez nous apporter un témoignage sur les pédaleurs, ceux qui amènent sur des vélos, des sacs de maïs vers les grands centres de consommation?
Oui, nous en avons des trop, je vous l'ai dit. Vous savez que les véhicules, particulièrement, transportent, d'accord. Mais il y a plus de pédaleurs que jamais, de telle manière que il y a une grande quantité de maïs transportée uniquement par les pédaleurs. Et de ce fait, vous comprenez qu'avec la population, il y a beaucoup de difficultés que cette population est en train de traverser une fois que les routes ne sont pas rangées. Et que les véhicules ont des difficultés pour atteindre les centres-villes. Et la population se démène maintenant, parce qu'à ce moment-là, les pédaleurs doivent prendre les maïs d'un lieu très lointain comme Katisamba, afin de les amener au niveau du territoire des villes.
Et ils empruntent quelle route? Ils empruntent quelle route?
Ça doit atteindre le territoire des Loulous, qui est aussi, qui est vers Katisamba. Une fois que ça atteint la cité de Luputa, là où je suis, et comprenez que le prix doit évoluer, ou encore on doit faire la hausse des prix, et tout cela font partie de ce qu'on appelle, c'est-à-dire la hausse des prix qui est en train de varier des villages.
Daniel, et les pédaleurs, oui. Les pédaleurs, ils font combien de kilomètres pour quitter Luputa et aller peut-être en Mbujimayi?
En Mbujimayi, c'est presque plus de 200 kilomètres.
Merci beaucoup, Daniel.
Il y a les autres, excusez.
Oui.
Il y a les autres qui prennent l'axe de Nandajika, les autres viennent des cabines vers Bujima et les autres de Nipong. Nipong, très loin de Bujima. Ils doivent transporter leurs charges jusqu'en Bujima.
Mais ils sont
quelque chose.
Mais ils sont quand même limités. Un pédaleur peut transporter combien de sacs de maïs sur son vélo?
Au lieu des sacs, nous allons parler au niveau de l'État. Il y a ceux qui transportent à partir de 30, 35, 40, 50, même 100 ou 110. Ça dépend de la force et des stratégies des dispositions des sacs sur le vélo.
Ah, ok. Mais donc, on retient que ces pédaleurs sont quand même limités. Ils ne peuvent pas transporter d'aussi grandes quantités comme, par exemple, pour les camions.
Mais vous savez que s'ils sont à 10 aussi, avec 100 mètres, par chacun, ça fait déjà 1000 mètres, mais ils sont plus de 1000. Ils sont plus de 1000, je vous l'ai dit. Si vous traversez ou encore vous empruntez nos tronçons, dans ce terroir ou au Café Oriental, vous découvrirez qu'ils sont par milliers.
Merci. Merci beaucoup de nous avoir contactés depuis Luputa au Kasaï Oriental. Daniel, et portez-vous bien. Nous avons, comme je vous le disais, dans ce studio un confrère, Jean-Jacques Mampaka. Il est journaliste au Potentiel. Il est aussi reporter d'images. Il avait effectué dernièrement un voyage de plus de 1500 km avec un autre confrère belge dans une petite embarcation sur des rivières au Congolais. Il est là justement pour témoigner de ce qu'il a vu. Il a vu des populations qui produisent énormément de vivres, mais elles n'arrivent pas à les évacuer. Mais on va lui donner la parole dans une poignée de secondes.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Si vous venez de prendre en cours cette émission, voici le thème. Avec la fin de la saison de pluie dans certaines parties de l'ouest et du centre du pays, les routes deviennent en principe plus praticables que pendant la saison de pluie. Alors, quelle stratégie adopter pour évacuer les produits alimentaires se trouvant dans les coins les plus reculés et les plus enclavés du pays pour ainsi casser leur prix dans les grands centres de consommation? Parole aux auditeurs vous donne l'occasion de vous exprimer sur cette question en direct sur Radio Capi. Nous en parlons aujourd'hui avec un confrère, Jean-Jacques Mampaka. Il a effectué un voyage de plus de 1500 km à travers la RDC dans une petite embarcation sur les rivières congolaises, notamment dans la province de Kasaï et du Bandundu. Il a fait avec un confrère belge. Et si vous voulez réagir en direct pour proposer des solutions d'évacuation de ces produits alimentaires, appelez-nous au 081-99-77-800, 081-99-77-800. Si vous êtes à l'étranger, ajoutez à ce numéro le 00243 et pour nous envoyer un SMS, envoyez-les nous au 09-98-999-222, c'est facile, 09-98-999-222. Et si vous voulez réagir par internet, envoyez vos réactions à l'adresse PA comme parole aux auditeurs @radiocapi.net. Chers confrères, votre réaction, vous avez suivi tous ces témoignages. Il y a même maintenant des solutions intermédiaires, des gens qui évacuent ces produits à l'aide des vélos.
Oui, je voudrais d'abord réagir sur ce que le médecin venait de dire tout à l'heure, en ce qui concerne la transformation pour conserver mieux les produits. En parlant de transformation, à quoi est-ce qu'il fait allusion? À quel type d'énergie est-ce qu'il faudrait amener dans ces coins perdus pour qu'on puisse transformer les aliments? Parce que déjà, il n'y a pas de route. Les rivières, s'il y avait une piste de solution à proposer, ce serait les rivières. Puisque là, la République démocratique du Congo en a en abondance.
Et ce n'est pas toujours balisé.
Mais bon, le problème de balisage, c'est vrai. Mais il faudrait déjà commencer d'abord par les exploiter, en connaître les difficultés, avant de songer au balisage. Parce que les rivières qui étaient balisées sont quasiment connues. Nous avons le Kasaï, nous avons la rivière Sankuru. Ça, ce sont des rivières qui sont suffisamment exploitées et qui connaissent tant soit peu un balisage. Mais il y a d'autres. Il y a la Lukenyi. Vous avez la rivière la Tchopo. Vous avez la Lomami. Ce sont des rivières, ce sont des voies d'évacuation. Si on arrive déjà à les exploiter, je pense humblement que les agriculteurs pourront encore mieux s'adonner à leur production. Par rapport à ce que le docteur disait, c'est vrai, Je ne sais pas s'il a déjà été dans ces coins pour vérifier l'état des routes. Celui qui est à Lopouta vient de nous parler des vélos.
Ici, des vélos.
Des vélos. Nous les avons rencontrés aussi. Nous les avons.
Et ces vélos-là empruntent quel chemin finalement? C'est dans la forêt, c'est dans la route.
Ce sont des sentiers. Ce sont des sentiers. Là, c'est quand ils se retrouvent dans des cités. Là, ils peuvent avoir des sentiers qui connaissent aussi des érosions, parce que là, il n'y a même pas de canalisation au côté. Donc, les routes, enfin, les routes, on peut les qualifier comme cela, mais ça, c'est vraiment pas des routes. Mais ce qui sert comme point de passage, c'est aussi érodé. Et ces gens-là, ils font tellement des acrobaties, parce qu'il faut les voir. Et quand on parle des vélos, il faut voir ces gens, combien est-ce qu'ils souffrent dans leur chair. Et ça, pour porter 4, 5, 6, 7 sacs.
Et mais ça ne résout pas le problème parce que la grande quantité ne peut pas être transportée sur des vélos.
Elle reste. Et ces gens peuvent vous faire 2 semaines de route. Ils dorment dans la forêt. Puisque les villages ne sont pas le long des pistes, c'est plus à l'intérieur, donc ils sont obligés de dormir le long des pistes, avec tout ce qu'il y a comme risque, des rencontres malencontreuses qui nous font venir. Donc, c'est vrai. On dit,
Mais que vous parlez des rivières qui sont peut-être les seules sources d'évacuation de ces produits, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'ONATRA puisse remettre sur pied ces grands bateaux qui partaient de Kinshasa vers Kisangani, parce qu'aujourd'hui, ce sont plutôt des bateaux privés, des sites d'embarcation
privés. Ce qui les empruntes appellent abusivement baleinières, mais ces embarcations aussi, il faut les voir. Elles sont dans quel état?
Et souvent, ce sont des naufrages.
Toujours des naufrages, ouais. Toujours. Parce que là, nous en avons croisé jusqu'à 4 qui se sont ensablés et qui ont mis déjà 3 mois avant d'atteindre un point, par exemple le point d'Oshoué, en partant de Maluku. Ils arrivent à mettre 3 mois. Et le temps maintenant de procéder par l'embarcation des marchandises et des passagers, la descente, comme maintenant effectivement c'est la décrue au niveau de la rivière Lukeni, du Kassai et de l'Infini, donc les bateaux ou les embarcations sont sables. Quand ça prend tout ce temps-là, les produits, qu'est-ce qu'ils deviennent?
Voilà. Merci beaucoup. On vous garde encore dans cette émission, chers confrères. Jean-Jacques Comin, pas qu'un journaliste au potentiel, mais aussi reporter d'images. Je rappelle que vous avez effectué un voyage de plus de 1500 km sur les rivières congolaises, au Bandundu, dans les deux Kasaï. Et c'est pour justement témoigner des difficultés des Congolais qui sont dans les coins les plus reculés, qui ne peuvent pas évacuer leurs produits alimentaires que nous vous avons invités ici.
Parole aux auditeurs.
Dadi, bonjour, vous êtes à Kikwit, dans la province du Bandundu. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous connaissez aussi les pédaleurs qui transportent des sacs de manioc sur des vélos et puis qui les emmènent dans les grands centres de consommation?
Oui. Bon, ce que je voulais dire, le ministère du développement rural devait coopérer avec les autorités locales, les collectivités, les villages, tout ça. On devait instaurer une politique de réhabilitation des routes de déchets agricoles, former les villageois en ce qui concerne le développement de leurs entités, pour permettre à ces villageois de s'habituer dans les travaux d'entretien des routes, comme on fait par exemple avec les salons avant de vendre, vous devez balayer, mettre un prêt de propriété, sinon on vous interdit de vendre si vous n'avez pas mis la propriété là où vous êtes en train de vendre vos articles. On devait faire dans chaque village, dans chaque collectivité, les chefs devaient entraîner ses habitants à réfectionner les routes des déchets agricoles. Parce que ici, par exemple, il y a certains organismes qui ont réhabilité les routes agricoles, mais après un certain temps, lorsque on trouve plus ces organismes, les autochtones n'ont plus de courage à réceptionner les routes.
Mmh.
Il fallait aussi prévoir une certaine motivation, un fonds nécessaire pour l'entretien des routes de desserte agricole.
Voilà. Merci beaucoup pour votre proposition, Dadi. Vous intervenez depuis Kikwit. Polydor, vous êtes à Kingo Manema. Et également, partagez-vous le même point de vue que celui de l'auditeur qui vient de vous précéder. Bonjour, Polydor.
Ah, oui, monsieur.
Vous êtes à Kingo Manema. Est-ce que vous partagez le même point de vue?
Je suis Matisse de Kibombo.
Allez-y, on vous écoute.
Par chez nous, il n'y a pas de route pour évacuer les produits agricoles. Les routes de chez nous ne sont pas praticables. Or, nous tous, nous observons les 5 chantiers du chef de l'État. Dans notre territoire de Kibombo, il y a 5 collectivités chefferies, dont 98% de la population sont des cultivateurs. Mais pas de route. Les gens font leur transport en vélo. Il faut voir alors l'état de la route et les trajets. Nous demandons l'appui pour l'entretien de nos routes, des recettes agricoles. C'est tout ce que j'avais comme idée.
Polydor, mais est-ce que vous-même, vous-même au niveau de la population du Maniema, vous ne pouvez pas vous organiser pour dégager les routes?
Bon, alors, dans nos chefferies, il y a peu déjà seulement. Il y a des trajets, en tout cas, de 50 km, 60, 100 et plus. Comment est-ce que les gens sont minoritaires? Eux, déjà. Mmh.
Voilà, voilà. Merci beaucoup pour votre proposition, Jean-Claude. Et Tabouka, vous aussi, vous. Bonjour, d'abord, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Jean-Claude. Et je vous appelle de Bukavu, je voulais aussi intervenir et donner mon avis.
Allez-y, vous êtes déjà en ligne.
La situation. D'accord. En fait, moi je voulais proposer au ministère de l'Agriculture pour qu'ils essaient un peu de voir comment ils peuvent développer, et ils peuvent mettre sur pied un département de la mécanisation agricole. Sinon, ils sont en train d'envoyer des tracteurs au niveau des provinces, mais ils ne savent pas comment les utiliser, et il y aura un problème de pièces de rechange, il y a plein de choses qui vont survenir dans l'avenir. Et c'est dans ce sens-là que je voulais donner mon apport.
Merci beaucoup Jean-Claude, on vous garde encore en ligne.
Parole aux auditeurs.
Jean-Claude, vous êtes à Bukavu, mais certains, on a entendu, je pense, un auditeur parler des 5 chantiers qui ne se limitent qu'au niveau des grandes villes. Est-ce que vous avez parfois eu l'occasion d'aller à l'intérieur de la province du Sud Kivu?
Oui, effectivement, on a eu l'occasion d'aller à l'intérieur, à Shabunda, et dans Fizi, et même Kalehe, Bunakiri, Bakalehe. Des fois, on a trouvé qu'il y a toujours des difficultés d'évacuation des produits chimiques.
Qu'est-ce que les agriculteurs produisent dans ces coins-là, à Shabunda et partout ailleurs, là, dans la province du Sud Kivu?
Oui, à Shabunda, il y a une forte production du riz. Et cela n'empêche que nous achetions les riz qui viennent des pays asiatiques ou de l'Est de l'Afrique, mais
quoi?
Alors qu'il y a tant de stocks qui pourrissent dans Shabunda, mais des fois ça nous inquiète.
Merci beaucoup Jean-Claude de Bukavu pour votre témoignage. Est-ce qu'on peut connaître ici à Bukavu un kilo de pommes de terre coûte combien? Puisque ici à Kinshasa c'est à peu près 2500 francs congolais. Un kilo de viande ça coûte combien puisque vous en produisez également là-bas? Ici à Kinshasa c'est presque 10 dollars.
Un kilo de pommes de terre coûte plus ou moins 350 à 400 francs. Et pour la viande, c'est autour de 80 francs congolais.
80 francs congolais, 1 kg de pommes de terre. 400 francs
congolais. De pommes de terre, 1 kg de pommes de terre, c'est entre 350 et 400 francs congolais. Un kilo de viande, c'est autour de 4000 francs congolais.
Autour de 4000 francs congolais, c'est la moitié du prix ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Jean-Claude. Comment faire pour que, justement, ces prix soient baissés au niveau des grands centres de consommation, Kinshasa, Lubumbashi et partout ailleurs? C'est un peu l'objet de cet échange avec vous, nos auditeurs. Le docteur Richard, vous intervenez à partir de Kinshasa. Vous revenez encore parce que vos propos ont été attaqués. Hein. Vos actions semblent être les limites dans des grandes villes. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, je dis ceci. J'ai beaucoup travaillé à l'intérieur.
Oui.
Deuxièmement, j'ai même refusé de quitter l'intérieur parce que là où je suis passé, j'ai agi en agent de ces propos du secteur de la santé. Si vous allez par exemple à Lukula, vous trouvez au lieu de faire un bâtiment de 14 chambres avec le financement de l'hôpital. J'ai laissé un champ de soja de 4 hectares pour qu'on donne cette denrée aux malades. Voilà.
Mais, votre solution, la solution que vous proposez là, beaucoup, certains auditeurs ne semblent pas la partager. Comme il y a des problèmes d'évacuation, vous proposez d'appliquer des techniques de conservation de produits alimentaires. Or, ces techniques-là ne peuvent pas arriver au niveau des villages côte-route.
Non. Voici ma préoccupation. Comment est-ce que le Congo belge avait soutenu les alliés pendant la guerre de 40 ans? C'est avec la même route que nous n'avons pas entretenu. C'est ça le problème. C'est pas le moment de commencer à se plaindre, pas de route, ceci, pas cela. Nous n'avons pas respecté l'île nationale qui est le grand problème dans lequel se trouve le Saint-Jean.
Mais quelle stratégie finalement pour pouvoir évacuer ces produits qui coûtent vraiment moins cher à l'intérieur du pays alors qu'il faut déjà ça, manger de la pomme de terre ou de la viande, en tout cas, je ne dis que oui, il y a des Chinois qui ne le mangent peut-être, qui n'en mangent qu'une seule fois par année.
Oui, il faut tout repenser, recommencer à zéro, comme si on venait de nous donner l'indépendance maintenant. Voilà.
Qu'est-ce que vous proposez?
Allez-y.
Qu'est-ce que vous proposez?
Non, mais qu'on repense le système, par exemple, de formation. Qu'on repense le système de l'alphabétisation fonctionnelle au niveau des villageois, etc. Qu'on repense comment entretenir le route par le cantonnage local, etc. Et qu'on monte petit à petit. Vous imaginez un petit pays comme le Burundi, j'ai mis le pied là-bas. Ils ont des silos de conservation de produits agroalimentaires. Nous, on n'en a pas.
Merci.
C'est dans quatre poules de ce pays. Comment peut-on continuer à discuter alors qu'on a des trucs de ce que les Belges nous ont donné, ça. Et deuxièmement, on n'arrive pas à avancer. On est dans des polémiques de classe, d'école, de stratégie, etc. Au lieu de voir le problème en face et tenir le taureau par les cornes à travers l'hymne nationale, c'est tout un programme. Debout congolais. On n'est pas debout. On est couché ou je ne sais pas comment.
Oui, docteur Richard, je retiens que vous avez proposer le cantonnage manuel et peut-être aussi la formation des villageois. Pourquoi pas peut-être aussi à l'école, hein, introduire une formation dans les régions rurales.
À un enfant qui a fait par exemple la biochimie. Moi, j'ai fait la biochimie. Oui. Mais j'ai su très tôt que ce que ma mère faisait, c'est-à-dire pour l'engueil, parce que j'ai vendu ça. Et là, après ça, auprès des West Africains habitants ici. J'ai vendu les beignets de ma mère, conditionnés parfois avec les bananes, parce qu'il n'y avait pas de sucre en ce moment-là. Je sais que c'était ça la biochimie. Et aujourd'hui, si vous demandez à un enfant, tu fais la biochimie, pourquoi? Il n'a pas de réponse. Et vous allez me dire que l'enseignement primaire et secondaire forme des gens, on forme des diplômés, mais qui sont des chômeurs et des gens qui veulent bien pour leur pays.
Merci beaucoup, docteur Richard, pour votre nouvel apport. Merci beaucoup, au revoir.
Pour la paix, pour que la paix ne soit pas qu'une religion.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet et @radiookapi.net.
Vous venez de vous joindre peut-être à nous dans cette émission Parole aux auditeurs, cette émission interactive de Radio Okapi qui vous permet d'intervenir, de donner votre point de vue sur le thème du jour. Et concernant ce thème du jour, aujourd'hui, nous parlons de la fin de la saison de pluie dans certaines parties de l'ouest et du centre du pays. Les routes deviennent en principe plus praticables que pendant la saison de pluie. Alors, quelle stratégie adopter pour évacuer les produits alimentaires se trouvant dans les coins les plus reculés et les plus enclavés du pays pour casser leur prix dans les grands centres de consommation. C'est l'objet de l'échange de cette émission avec vous, nos auditeurs. Et si vous voulez intervenir en direct, appelez-nous 081-99-77-800, 081-99-77-800. Et si vous voulez nous envoyer un SMS, envoyez-les au 09-98-999-222, 09-98-999-222 et par Internet. Voici notre adresse, pa@radiocapi.net. Et nous en parlons avec un confrère, Jean-Jacques Mampaka. Il a effectué un voyage de plusieurs kilomètres, de 1500 kilomètres à travers la RDC dans une petite embarcation sur les rivières congolaises. Il est journaliste au potentiel et reporter d'images. Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez réagir à toutes ces propositions? Il y a le cantonnage, il y a la formation qu'a proposé le docteur Richard de Kinshasa. Est-ce que quand vous avez visité les différents villages pendant votre périple, vous avez eu l'impression que les villageois ont besoin d'être encadrés dans le cantonnage manuel? Est-ce qu'il faut une formation pour cela où les gens ont baissé les bras, ils disent attendre tout de l'État même pour essayer de dégager les routes qui existaient déjà?
Bon, de ce côté-là, je dirais que nous n'avons pas eu cette impression. Nous avons plutôt rencontré des gens qui veulent effectivement travailler afin d'obtenir le fruit de ce travail. Et quand je dis travailler, il y a non seulement les gens qui sont en train d'effectuer, mais ils ont même entrepris la réhabilitation de ce que moi je qualifie de piste, pas de route. Je prends un exemple. Dans le village de Kungu, il y a des jeunes.
C'est dans quelle province?
Là, nous sommes dans le Kasaï occidental. Donc, ce sont des jeunes qui se sont permis de réhabiliter déjà 35 km sur 120 km.
De même.
Sans un seul à plus. Et tout ce qu'ils demandent, c'est bien, on parle de formation et de tout ça. Combien est-ce qu'on a déjà eu comme des gens formés qui sont dans des villages et sans outils de travail? Ils ne demandent pas grand-chose. Ce ne sont que des machettes, des houes, des bêches. Et si ils sont déjà en possession de ce type de matériel, je pense que le cantonnage peut se faire. Mais vous n'allez pas demander à des villageois de procéder à un cantonnage à main nue. Puisque déjà, quand je prends l'exemple de la DKC, il y a une route qui mène vers l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est la nationale numéro 3. Cette route va jusqu'à Kisangani. Mais cette route, elle est dans quel état? Et ce sont des villageois, pour permettre aux vélos de passer, ils vont ramasser des troncs d'arbres qu'ils viennent mettre par là où la chaussée a glissé, il y a un petit ravin par là, ils essayent de combler avec des troncs d'arbres.
Donc, avant de répondre, on va vous laisser continuer. Donc, vous allez répondre d'ici quelques poussières de seconde à cette question. Est-ce que vous avez eu l'impression que les populations sont abandonnées à elles-mêmes? Vous allez répondre à cette question dans une poignée de seconde.
Parole aux auditeurs.
Jean-Jacques.
Oui, à cette question, je dirais oui. La population, elle est abandonnée. Et nous les avons même qualifiés des oubliés.
Donc la décentralisation n'a pas encore lieu d'être dans partout où vous avez visité.
Ça, je pourrais dire qu'il faut qu'on mette d'abord les choses en place, qu'on désenclave avant de parler de décentralisation. Puisque si aujourd'hui, ceux qui sont enclavés, on les décentralise, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir.
Sans route.
Non, mais déjà, maintenant, les provinces qui sont au nombre de
11, on arrivera à 26.
Donc, on doit en arriver à 26. Mais déjà, prenons l'exemple du Sankuru, qui voudrait devenir une province.
Au Kasaï oriental.
Au Kasaï oriental. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de route.
Donc, il n'y a pas lieu de parler de décentralisation.
Il n'y a pas de route.
Les gens ne peuvent pas communiquer avec les autorités.
Pour le moment, même quand je reviens sur ce que le docteur disait tout à l'heure, qu'il faut éviter de trop parler, oui, mais quand il prend le cas du Burundi, le Burundi a quelle superficie? Et le Burundi utilise quel type d'énergie pour avoir ses silos de conservation? Ici déjà, en fourniture électrique, c'est un sacré problème. Tous ces villages que nous avons rencontrés, même les cités, comme Lodja, encore, il y a un peu le téléphone. Vous arrivez à Kolé, vous n'en avez pas. Vous arrivez à décaisser, vous n'en avez même pas. Alors, comment est-ce que ces gens
peuvent rentrer en contact avec les autres.
On arrive presque à la fin de cette émission, Jean-Jacques, mais finalement, est-ce que face à ces difficultés d'évacuation de leurs produits, est-ce que les populations, vous avez eu l'impression de ces trois provinces visitées, les deux Kassai et le Bandundu, ont tendance à baisser le bras, à ne plus beaucoup produire parce qu'ils se disent qu'en produisant beaucoup, on n'évacue pas, et là, la pauvreté augmente aussi. Est-ce que vous avez eu cette impression-là?
Non.
Qui baisse le bras.
C'est une population qu'il faut vraiment féliciter. C'est une population, malgré le fait de ne pouvoir évacuer leurs produits, elle continue toujours à travailler. Puisque c'est ce qu'elle a l'habitude de faire et coutume de faire.
Mais oui, elle n'en arrive pas à vendre.
Bon, qu'est-ce qu'ils font? De temps en temps, il y a quand même de ceux-là qu'on appelle des commerçants qui arrivent à atteindre ces coins par des voies assez difficiles et ils se permettent de vendre le peu qu'ils peuvent vendre. S'ils avaient 100 sacs, ils en vendent peut-être 10, ils trouvent leur compte là-dessus.
Voilà, nous avons quelques Souleymane Souley de Kinshasa déjà en ligne, de même que Mathieu de Manono et Jean-Marie Douvira. Mais avant de leur accorder la parole, je m'en vais lire cette SMS rapidement. Georges de Kisangani, c'est un mail. Il est très délicat d'évoquer le problème d'approvisionnement des centres de consommation en produits vivriers en cette période de la sécheresse. Mais j'ai comme l'impression que ce sujet ne nous concerne pas a priori, vu le climat du district de la Tchopo dans lequel se trouve implantée la ville de Kisangani. Et plus encore, je pense, dans certaines parties du pays, comme on l'a dit, Tabalira de Bénion-Nord-Kivu pense que la pacification de l'Est de la RDC et l'ouverture de ses voies de communication restent la seule solution pour la baisse des prix des denrées alimentaires à Kinshasa. Les Noirs de Kinshasa pensent que, sauf par hélicoptère, sinon il est impossible d'évacuer dans le besoin les produits qui pourrissent à l'intérieur du pays vers la ville. Ernest de Londres pense que, puisque nos provinces manquent de routes principales et secondaires desservant les villages, pourquoi ne pas utiliser dans nos campagnes les forces animales, faire le transport des produits agricoles sur le dos des bovins, d'ânes, de chevaux, de bus et autres. Cagne de Bukavu Sud Kivu, je vois Jean-Jacques rire un peu. Cagne de Bukavu Sud Kivu pense qu'il faut réhabiliter les routes et les agences privées des transports pour permettre l'évacuation des vivres. Avis que partage aussi Jacques Mbandaka et Rémi de Bukavu. Enfin, Banza de Katanga pense que la solution de terminer la nationale numéro 1, même en terre compactée, celle-ci traverse d'après lui plusieurs cités, villes et provinces. Rapidement, on est presque à la fin de cette émission, il nous reste que 4 minutes sous les mains de Kinshasa. Est-ce qu'il faut utiliser le dos des bovins, des bœufs pour évacuer les produits, comme le pense l'un de nos auditeurs de Kinshasa? Bonjour d'abord, Souley.
Oui, bonjour.
Rapidement.
Moi, je crois que je voudrais raisonner dans un autre sens.
Oui.
Le rôle d'abord de l'État, puisque quand vous parlez, vous demandez la solution aux populations qui se donnent d'abord de la peine à produire beaucoup sans subvention. Parce qu'ailleurs, on voit que l'État subventionne les agriculteurs pour pouvoir produire. Mais chez nous, ils se donnent la peine de produire à leur propre compte. Il n'y a rien de la part de l'État. Ces gens-là travaillent beaucoup, ils produisent. C'est à l'État de pourvoir. En fait, pour qu'il y ait moyen d'évacuer ces produits-là dans les grands centres-villes qui en ont vraiment besoin. Voyons par exemple, nous avons, moi à mon sens, je crois qu'il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère des Travaux publics et infrastructures, il y a aussi le ministère des Transports et Communications. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une centrale ministérielle, trouver une solution dans ce sens-là pour pouvoir aider ces gens-là?
Merci.
Nous disons toujours que l'État n'a pas de moyens. Mais moi, je me demande si l'État n'a pas de moyens. À quoi bon l'appeler l'État?
Merci beaucoup, Matou. Merci beaucoup de nous avoir appelés sous l'aide de Kinshasa. Matou, vous êtes à Manono, au Katanga. Est-ce qu'il faut une solution interministérielle, comme vient de le proposer le précédent auditeur, ministère de l'Agriculture, je ne sais pas, et d'autres ministères de développement, etc. Matou n'est pas en ligne depuis Manono au Katanga. Nous allons maintenant nous rendre à Ouvira dans le sud Kivu, d'où intervient Jean-Marie. Bonjour d'abord. Est-ce qu'il faut une solution interministérielle, ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et peut-être aussi d'autres ministères pour justement permettre aux agriculteurs dans les recoins du pays à évacuer leurs produits?
Ok, monsieur le journaliste, j'appuie l'autre de Kinshasa concernant l'interministériel. Puisque si vous regardez
à côté ici, nos frères burundais, le matin quand tu es à Bujumbura, tu dois te saluer avec tout le coin de la République en provenance de l'intérieur de leur province.
Jean-Marie, vous m'entendez dire, Jean-Marie, est-ce qu'il faut transporter ces vivres sur le dos des bœufs chez vous? Je sais qu'il y en a beaucoup là-bas, non, comme une solution.
C'est impossible. Écoute, c'est impossible. Comme nous, dessus du vivre, à quelques mètres aussi, dans les maïs plateaux, nous produisons des pommes de terre. 50 kilos, ça coûte au moins 3000 francs.
Mmh.
Hein? 3000 francs. Nous produisons des maïs. Mais il n'y a pas moyen de le faire.
Merci beaucoup, Jean-Marie. On a pris beaucoup de temps. Merci d'être intervenu depuis Ouvira. Nous remercions Gabriel de Béni et Josca de Boumia. Nous allons terminer avec vous en 30 secondes, Jean-Jacques. Vous êtes un confrère du potentiel. Quelle solution en 30 secondes?
La solution, c'est de procéder d'abord par la voie d'eau. Les rivières, nous en avons en grande quantité.
Oui.
Et si nous les utilisons, on verra comment est-ce que nous pourrons repartir sur les routes.
Donc relancer les grands bateaux de l'ONATRA, par exemple.
Tout à fait.
Merci beaucoup, confrère, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous appelez Jean-Jacques Mampaka. Vous êtes journaliste au potentiel, mais aussi reporter d'images. Vous avez effectué un voyage de 1500 km avec un confrère belge.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission Parole aux auditeurs. Demain vendredi, nous vous démontrons de réagir par rapport au nouveau programme de Radio Capi avec de nouvelles émissions telles que Parole aux auditeurs, Écho d'économie, des chroniques sur la santé, sur l'environnement, etc. Donnez-nous votre point de vue et vos remarques et suggestions. Envoyez-les-nous par SMS au 09 98 999 222 et par Internet à l'adresse pa.parole aux auditeurs@radiocapi.net. Merci à notre confrère d'être intervenu dans cette émission, de même qu'à tous nos auditeurs. Si Tim Couture, Pierrot et la Mégie vous ont préparé cette émission, Paul Bagagnan était à la mise en onde et Ben Kabamba à la coordination. Portez-vous bien et à demain.